France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Bonjour, je m'appelle Hélène Grimaud. Je suis née à Aix-en-Provence en 1969 et je suis musicienne.
Bonjour Hélène Grimaud.
Bonjour Judith.
Et très heureuse de vous rencontrer. Merci de nous accorder ces grands entretiens. Nous voilà à l'orée de l'été, au Touquet, où vous donnez un concert dans le cadre du festival Pianofolie. Votre chemin de Damas vous a amené à vivre loin, de l'autre côté de l'Atlantique le plus souvent. La langue française est alors de moins en moins la vôtre et pourtant vous l'écrivez. En compagnie de Stéphane Barsac, éditeur, ami de longue date, vous publiez une conversation, Renaître, chez Albin Michel, dont la philosophie et la littérature sont les complices essentiels, les contrepoints, les points d'orgue de vos réflexions. Un livre qui semble se souvenir du passé, peut-être autant que de l'avenir, un point d'étape pour l'exilé volontaire que vous êtes. Quand Baudelaire demande à l'étranger « Qu'aimes-tu le mieux, homme énigmatique ?», celui-ci répond « Les nuages ». Les nuages qui passent là-bas, les merveilleux nuages. Alors vous, Hélène, vous sentez-vous étrangère en terre française? Vous sentez-vous énigmatique? Et qu'aimez-vous le plus?
Oui, je me sens étrangère, mais je me sens étrangère partout. Et en même temps, chez moi, partout où il y a de la musique, où il se trouve des gens que j'aime, en fait. Ça paraît très cliché à dire, mais c'est bien vrai. Cette idée d'exil, on est en départ, mais pas en rejet de quoi que ce soit. Je l'ai souvent dit, quand j'ai quitté la France, c'était plus par esprit de découverte, d'aventure. Ça n'avait rien à voir avec un rejet de mes racines ou d'un chez-moi. Mais ça augmente l'être, en fait. On se sent toujours augmenté. Alors, parfois, on aimerait bien se rétrécir aussi. Mais c'est une très belle vie.
Et ces mots que vous avez en bandoulière, ils vous aident aussi où vous soyez à vous sentir chez vous?
Les notes plus que les mots. Parce que les mots, finalement, aussi sophistiqués, poétiques qu'ils puissent être, on s'abrite quand même derrière. Je trouve les notes révèlent plus.
Elles sont plus franches.
Oui.
Et en même temps, c'est l'indicible aussi, c'est l'ineffable.
Ça me rappelle cette phrase de Frank Zappa qui disait « Essayer de parler de la musique, c'est comme danser sur de l'architecture ». Ça n'a en fait que très peu de sens. Alors on s'efforce, voilà, mais on n'arrive pas très près.
Et en même temps, vous aimez donc écrire aussi. Ça, c'est une manière de s'exprimer.
Oui, alors d'abord, il faut dire que la langue écrite et la langue parlée sont deux mondes totalement différents. Hein. La langue écrite, ça se travaille. Donc rien à voir. Et en même temps, les livres ont été mes premiers amis. Donc ça, c'est quelque chose que je dois à mes parents. Un livre, ça peut changer une vie et ça a été de fortes présences qui m'ont accompagnée tout au long de mon enfance, de mon adolescence.
Parce que vos parents sont donc lettrés, amoureux des livres.
Oui.
Quelles sont leurs professions, vos parents?
Enseignants tous les deux.
De quelle matière littéraire?
Langue, italien.
Est-ce que c'est une langue que vous entendiez chez vous? Est-ce que la langue française était accompagnée d'autres langues dans votre enfance qui étaient comme ça, qui vous entouraient, ou c'était seule la langue française?
Eh bien, parfois de l'italien, mais c'était plus quand mes parents souhaitaient que je ne comprenne pas ce qu'ils étaient en train de dire.
Parce que c'est leur langue à tous les deux, première.
C'est peut-être leur langue d'amour, leur langue de romance, leur langue de secret.
Stelle da marina che la sera pareva ci volessero cantare, per ogni stella che scendeva a mare ci scriveva in cielo addio felicità.
C'est une enfance qui se passe à Aix-en-Provence,
ouais.
Fille unique, avec les livres comme compagnons plus que les camarades de classe.
Oui, c'est ça. Et alors des camarades, il y en a eu quand même, mais je les ai aussi quittés très tôt. Donc ça n'a été qu'un chapitre.
Est-ce que vous aimez les souvenirs ?
On aime les souvenirs, évidemment. Ça, il y en a qui font chaud au cœur, il y en a qui glacent. Mais tout ça, ça met du relief.
Et ce souvenir, ça va avec l'idée d'inventer aussi ou pas ?
Oui, ou plutôt de se réinventer, je crois. Mais c'est ça qui est magnifique, on peut toujours aller crescendo sur le courant d'une vie. Et en essayant de rester fidèle à ce qu'on est, ou à ce qu'on pourrait être dans le meilleur des cas.
Quand vous étiez enfant, vous saviez qui vous étiez ? Vous aviez une idée forte qui vous ancrait quelque part ?
J'ai toujours eu le sentiment de venir d'ailleurs. C'était peut-être un de mes souhaits les plus forts, donc il est devenu réalité, tout simplement. Mais oui, j'avais cette sensation que les choses allaient m'emporter loin, mais j'espérais quand même dans la continuité.
C'était un désir aussi, à la fois le passé, venir d'ailleurs, mais aussi aller ailleurs.
Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'après on ne sait plus ce qui est désir, ce qui est conviction. C'est bien quand ça se mélange.
Donc de passage, en fait.
Oui.
Quand vous pensez à cette enfance, vous, la première partie de l'enfance qui se passe à Aix-en-Provence, vous en avez quelle couleur, quel parfum ?
Ah, c'est du mordoré, en fait, comme couleur. Donc il y a quand même du brillant. En même temps, un peu de nostalgie. Le parfum des pins, ça c'est ce qui me reste. Ça a été une enfance heureuse, une enfance excitée dans le meilleur sens du terme, pleine de découvertes, avec cette réalisation très vite que les horizons qui m'attendaient étaient immenses, avec des parents merveilleux qui ont été très magnanimes aussi, quand même, il faut bien dire, ils m'ont laissé partir, étant fille unique, ils m'ont laissé partir à l'âge de 12 ans. Très peu de parents l'auraient fait. Et Dieu sait qu'ils m'adorent, donc voilà, ça a été un gros sacrifice pour eux, donc je leur dois tout.
Et quand vous dites Mordoré, les grands espaces aussi, ce rapport à la nature, on sent, est absolument essentiel chez vous. Et c'est une manière aussi constitutive de votre être.
Oui, vous le dites très bien, effectivement, c'est essentiel, j'en ai besoin pour respirer. On en a tous besoin pour respirer, même si on ne s'en rend pas compte, finalement. Mais comme je l'ai découvert plus tard, après, par la littérature allemande, en commençant par Novalis, finalement, c'est cette idée que la nature est la muse ultime. Et c'est là où tous les créateurs sont allés se ressourcer. Voilà.
Novalis, vous allez découvrir peut-être après d'autres romans qui sont plus collés à l'enfance, les grands héros qui étaient vos compagnons. Qu'est-ce qui vous emmène quand vous lisez Dumas, vous aimez quoi ? Les mains d'Aramis, vous aimez les cavalcades, vous aimez le château d'If.
C'est drôle que vous me parliez de Dumas, parce que j'allais vous dire le comte de Monte Cristo. oui, cette idée que la vengeance est injuste, en fait. Oui, tout ce qui est épique, ces idées d'aventure humaine et de choses aussi non résolues. Ça donne toujours un pincement au cœur, mais c'est quand même dans l'incertitude qu'on se sent le plus en vie. Donc ce sont de belles histoires.
Avant même de pratiquer vous-même la musique, vous aimiez que les musiques comme ça, romantiques, être emportées, danser dans votre chambre quand vous pensez à vous, avant 7-8 ans, il y avait peut-être de la musique chez vos parents. Est-ce que ce cœur était déjà grand et avide d'aventure ?
Je dirais oui. enfin, la vie l'a fait grandir aussi, mais j'avais de la chance d'être entourée de personnes de nature généreuse telles que mes parents. Et je pense que mon premier contact avec la musique, ça a été la voix de ma mère. Le fait qu'elle me... elle me lisait, mais elle les connaissait tous par cœur, beaucoup de poèmes. Donc ça sans doute était la première musique. Après, évidemment, il y avait des disques, parce que mes parents aimaient la musique classique, même s'ils n'étaient pas musiciens eux-mêmes. Donc voilà, ça a commencé tôt quand même.
Donc cette première enfance se passe à Aix-en-Provence avec des échappées aussi vers une plus grande nature que la ville d'Aix-en-Provence, qui est ravissante, mais qui est nichée au creux de la nature, au pied de la Sainte-Victoire, pas très loin de très beaux endroits, mais...
Très beaux endroits, effectivement. Il y a eu beaucoup de balades autour de la Sainte-Victoire. Après, il y a eu la Camargue. C'était un rituel extraordinaire. Donc, ça a commencé ainsi. Et puis, les Alpes. Mmh. Voilà.
Et ce contact-là, c'est aussi le contact visuel des grands espaces, le contact de l'air, de l'espace. Mais on le sent quand on vous lit aussi, le contact du corps.
Oui, ce corps, il faut bien l'incarner d'une façon ou d'une autre. Donc, et quand on prend conscience des relations entre l'esprit, le cœur, et donc cette enveloppe charnelle, eh bien, on y fait plus attention dans ses sensations, dans ses réactions et dans le rythme qu'il peut battre aussi.
Et d'ailleurs, vos racines sont plus dans la terre que dans les êtres et les ramifications d'un arbre généalogique.
Eh bien, vous avez tout deviné. Encore une fois, aucun rejet de là où je viens et des racines de mes parents. Comme j'ai dit, je leur dois tout. Mais en même temps, il y a un contrepoint qui naît, qui doit après se développer. Et donc, c'est ça qui compte, c'est ça qui vous façonne aussi. Nature versus nurture. Mm-hmm. On ne saura jamais lequel a plus importance.
Pas tellement de nostalgie de l'enfance, en fait.
Non, ça j'étais. j'avais hâte de la laisser derrière moi. Mais encore une fois, plus par envie de découverte, j'ai toujours aimé être en présence de gens plus âgés que moi. D'adultes, déjà, ça me fascinait. Et je pensais que ça allait me faire grandir plus vite.
Ouais. C'était quoi ? Qu'est-ce qui vous faisait courir ? Qu'est-ce que vous enviez à ceux qui étaient plus âgés ?
L'expérience.
L'indépendance aussi ?
L'indépendance, je savais que je l'avais. Alors évidemment, ça n'est pas tout non plus. Il faut aussi savoir s'en remettre aux autres et leur faire confiance. Et il n'y a pas de honte à dépendre de quelqu'un, émotionnellement ou autrement d'ailleurs. Mais non, je dirais plus l'expérience. Parce que l'indépendance, je savais qu'elle venait. Elle a toujours été ancrée en moi.
Ouais. Et l'expérience ça vous rend audacieuse ? Vous en êtes impatiente ?
Oui, en même temps, l'expérience est intéressante parce qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'on arrive à différents seuils de l'existence et donc confronté à des expériences jusque-là inconnues. Et de l'expérience, finalement, on en manque tout autant chaque fois quand on arrive à ces nouveaux seuils. C'est pour ça aussi que la maturité... Pour autant qu'elle soit importante, certainement aussi dans l'interprétation de certaines œuvres, je pense qu'il est essentiel de se confronter à certaines œuvres, certains mondes déjà très tôt, et ne pas attendre le moment idéal, il n'y en a jamais.
Mmh. Ne pas se faire de regrets non plus.
Exactement.
On a l'impression que peu de choses vous font peur. Quand je vous lis traverser des immenses espaces, faire des expériences enfant, l'expérience de la douleur aussi... On a l'impression que, oui, que la peur est un sentiment qui vous est assez étranger.
On ne sait jamais, c'était peut-être aussi pour la combattre. Et alors on peut appeler ça de la déraison, on peut appeler ça de l'entêtement. Il y a toutes sortes de motivations, surtout dans l'enfance, qui font faire des choses qui paraissent peut-être invraisemblables ou peu probables en tout cas. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi de ça. Mais plus tard, on se rend compte, moi je me souviendrai toujours de ce que Kurt Sanderling m'avait dit, qui était que quand on a conscience de tout ce qui peut mal se passer, il me disait « When you realize all that can go wrong », alors là, on marque quand même le coup.
Thank you.
France Musique, les grands entretiens d'Hélène Grimaud.
Quand vous êtes enfant, vous l'avez écrit, on l'a beaucoup dit, vous êtes indomptable, intranquille, ingérable,
intraitable,
insoumise, tout ça. Est-ce que vous êtes aussi insaisissable ? Est-ce que vous, vous vous sentez incomprise ? Ce un, pas pour les autres, mais pour vous-même.
Incomprise, mais aussi par moi-même, d'ailleurs. C'était sans doute là que ça gênait le plus. parce que quand on a conscience des choses et de ce qu'on est, encore une fois, de ce qu'on peut devenir, ce qui est plus intéressant, finalement, tout se simplifie. Peu importe ce que les gens en pensent.
Et vos parents, ils étaient inquiets ?
Oui, les pauvres, absolument. Quand j'étais à Paris et que je vaquais à mes occupations, ils devaient souvent se poser des questions et être en souci, ça c'est certain. Ouais.
Et ce côté comme ça, très décidé, obsessionnel peut-être même, vous l'avez dès l'enfance, je veux dire en amont de la rencontre avec la musique déjà, ou oui. La musique cristallise ça ?
Non, finalement la musique a permis de canaliser ce côté obsessionnel. Je n'en suis que plus reconnaissante à mes parents qu'ils m'aient permis de découvrir cette activité, cette passion, cette vocation, parce que ça aurait pu aussi finalement mal tourner.
Parce que comment ça se manifestait jusqu'alors ? Puisque vous faites mille choses, mille activités, vous êtes très solitaire.
All the above, tout ce que vous venez de dire. Aussi. En même temps multiple et rigide dans ma tête. Donc, faisant beaucoup de choses, mais ayant toujours besoin de retrouver cette séquence dans les choses que je faisais, dans mon environnement. Donc ça, vraiment, heureusement que cet apprentissage de la musique a pu libérer tout ça.
C'est quoi cette séquence, ce motif, en fait ?
Oui, un motif, quelque chose de rythmique et d'organisé, quelque chose... Voilà, de cellulaire dans sa façon de s'emboîter à la séquence précédente et à la séquence suivante. Donc, oui, donc ça rédit beaucoup de choses et ça enlève ce côté insouciant à l'enfance. Et heureusement que, encore une fois, par la musique, il a pu se canaliser, puisqu'en musique, il en faut. On ne peut pas, finalement, être comme ça, à travailler, à toujours rechercher, essayer d'aller plus loin dans cette partition, dans l'œuvre. Sans ce côté obsessionnel, on n'y arriverait pas. Donc oui, ça a été une bonne chose.
Parce que ce côté obsessionnel, c'était une manière en fait d'organiser les choses quasiment à outrance. Est-ce que quand vous y parveniez, quand tout était à la bonne place, bien enchaîné, les rouages bien ensemble, à ce moment-là, il y avait un sentiment de tranquillité ou finalement ce n'était jamais assez ?
Ce n'était jamais assez. Donc si sentiment de tranquillité il y avait, il était très très bref. Et après, je rejetais tout en l'air pour recommencer. Voilà. Donc c'était plus le processus. Voilà.
Vous entendre, on se dit qu'il y a un excès, mais qu'en même temps, il y a une forme de maîtrise, de contrôle, que vous savez très bien ce que vous voulez faire, jusqu'où vous allez, et que si ça ne vous convient pas, vous allez recommencer. Mais de temps en temps, le chagrin aussi vous entrave quand vous êtes petite? Est-ce qu'il y a aussi une tristesse qui est accolée à ce jamais assez?
Oui, mais ça, je pense que c'est le cas chez tous les enfants qui parfois, comme ça, explosent. Mais je pense que c'est plus par épisode, en fait. Et puis des tristesses complètement disproportionnées par rapport à la réalité des choses aussi. Moi, j'ai une enfance heureuse, je n'ai manqué de rien. Alors après, c'est le côté un peu mélodramatique de cet âge-là. Mais c'est bien, ça forme aussi.
D'ailleurs, mélodramatique, le théâtre, vous aviez quelque chose comme ça aussi, un peu de faire des scènes, de vous imaginer des mondes
Non, ça, je crois que je n'étais pas trop douée. Non, quand ça se déclenchait, c'était quelque chose d'émotionnel.
De subi.
Voilà, de subi, ou ben, je faisais subir à moi-même d'ailleurs, mais le mettre en scène, ça j'aurais peut-être eu du mal. Sauf une fois où mes parents m'avaient offert, j'étais toute petite, je ne me souviens plus maintenant, je devais avoir 4 ans, un animal en peluche, un guépard. Alors moi j'étais folle d'animaux, je ne souhaitais qu'une chose, c'est en avoir à la maison. Et ça n'était pas possible. Mes parents travaillaient tous les deux, on vivait en appartement. Et je les ai vus guetter ma réaction, espérant que ça suffirait à mon bonheur pour un temps. Et en fait, avoir continué, mon manège était en train de glisser sur la pierre du sol de cette pièce où le cadeau m'avait été offert. Il y en avait d'autres qui attendaient, mais c'était le premier. Et d'avoir fait durer ça plus longtemps pour qu'il puisse vraiment réaliser et se réjouir du fait que c'était un choix magnifique. Donc ça, c'était mon premier passage de l'autre côté de l'innocence, si l'on peut dire. Mais ça s'est limité à très peu d'événements.
Cet autre côté de l'innocence, c'est aussi la simulation.
Oui, mais je dois dire que bon, pour moi, ça a servi le besoin d'être... vous parliez de cette indépendance tout à l'heure, de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire quand j'avais envie de le faire sans que personne ne puisse trouver à redire. Et puis parfois pour faire plaisir aux gens aussi, même quand ça n'avait pas lieu d'être. Donc c'était quand même plutôt inoffensif tout ça.
Justement, faire plaisir aux gens, est-ce que c'était important pour vous, le regard des autres? Est-ce que vous aviez envie de leur plaire ou finalement quelque chose de sauvage qui s'en fichait de plaire?
Je crois qu'il y avait un peu des deux, mais je dirais plutôt que d'avoir envie de leur plaire, je crois que c'était vraiment avoir envie de leur faire plaisir, même si les deux sont connectés évidemment, parce que les gens se retrouvent dans le regard de l'autre. Donc oui, les deux sont liés. Mais peut-être, je me fais des illusions, mais je pense que c'était plus ça la motivation, oui.
C'est sur cet extrait du 20e concerto de Mozart par Hélène Grimaud et la Camerata de Salzbourg, dirigée par Valentin Silvestroff, que se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec Hélène Grimaud. Une série proposée par Judith Chen, réalisée par Adrien Roc. Série d'ores et déjà disponible en podcast dans son intégralité sur l'application Radio France. Thank you.
À réécouter sur francemusique.fr.